Alors pourquoi j'ai travaillé sur l'alimentation? Parce que, évidemment, j'étais, comme tout le monde, sensible au fait que sur les bouteilles, il est indiqué le nom d'une ville vosgienne, sur les bouteilles de vin, de cidre, évidemment, on ne parle que de la Bretagne. Et puis parce que je viens d'un village où on fait du comté, fromage, donc qui porte un nom de région, depuis le XIIIe siècle, 1273. Et donc, quand j'étais gamin, on a fêté le 7e centenaire de la coopérative fruitière, vous savez, qui a inspiré le socialisme par la suite, surtout ce genre de mouvement un peu socialiste, conservateur, anticonservateur. Hein. Et bien, donc, cette chose-là m'a beaucoup intéressé parce que justement, quand on parle des campagnes avec des gens complètement prolétaires et abrutis, j'étais très très tôt frappé par le fait que ces témoignages que nous avions du fromage de notre fruitière, ce sont des archives qui viennent des comtes de Châlons, hein, de la famille de Châlons, et qui témoignent de chartes de commerce entre la Franche-Comté et l'Espagne. Parce que les premiers voyageurs au long cours, lorsqu'ils vont, évidemment, ils savent qu'ils vont sur les bateaux pendant de nombreux mois, eh bien, ils ont besoin de produits qui ne s'abîment pas. Et le fromage conservé par le sel, évidemment, est quelque chose. Et donc, ces archives-là, qui sont actuellement au British Museum, témoignent du fait qu'au XIIIe siècle, pas loin de la petite montagne, eh bien, non loin des salines qui allaient devenir ensuite les salines d'Arcachonnant, eh bien, on fait du fromage parce que justement il y a du sel et qu'on va échanger très loin. Hein, donc c'est très important. Je pense que cette notion-là, finalement, m'a permis de comprendre, parce que je viens d'un village, vraiment petit village, que finalement nous étions connectés au vaste monde depuis très longtemps. Je me suis interrogé longuement sur le sujet que vous m'aviez donné, parce que je dois dire que j'avais envie de venir ici vous rencontrer, et notamment rencontrer vos deux maîtres qui écrivent beaucoup de choses qui m'intéressent beaucoup, et surtout parce que j'ai vu que j'étais donc le premier intervenant avec Florent d'une longue série sur l'alimentation, et je me suis dit mais depuis 10 ans que je lis des choses sur la géographie et l'histoire de l'alimentation, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de données anthropologiques qui n'ont pas été faites, qui ne sont pas connues des chercheurs. Et c'est pour cela donc que je vais commencer par un petit peu de géo-anthropologie, hein, que j'ai décrit dans mon bouquin qui est sorti l'année dernière, pas celui-ci, mais les fameux radis d'Ouzbékistan, hein, et qui sont des radis d'Ouzbékistan, mais qui auraient pu être très bien du cidre de Normandie. Si je l'avais écrit en Normandie, j'aurais pu appeler ça le cidre de Normandie, parce que, en fait, quand je cherche une émotion, un témoignage géographique d'une habitude alimentaire, puisque je fais le tour du monde des habitudes alimentaires dans ce livre, mon éditrice me dit, mais tour du monde des habitudes alimentaires, c'est un titre qui n'est pas sexy du tout, mais il faut chercher quelque chose, et elle me dit, le souvenir que j'ai, moi, quand il y a 20 ans, le plus gros souvenir alimentaire que j'ai, c'est d'avoir croqué des radis sur le marché de Samarcande. Et quand j'apprends qu'en fait, ce souvenir très fort d'avoir croqué des radis en Ouzbékistan, donc, correspond à un voyage de noces, je suis quand même très surpris parce que cette femme aurait dû me dire qu'elle avait croqué son mari. Et en fait, elle se souvient d'avoir croqué des radis. Vous voyez? Et cette histoire est assez marrante parce que quand d'ailleurs, j'ai parlé à son mari, j'ai dit, mais est-ce que vraiment, vous avez le sentiment qu'Anne-Marie, ce jour-là, a préféré les radis au mari? Elle m'a dit, non, non, c'est une histoire qui n'est pas recomposée, mais qui est une vraie émotion qu'elle a ressentie là, parce que, très loin de chez elle, au fond, elle a cette même odeur soufrée, ce goût un peu particulier des radis, que finalement, elle retrouve sur la route de la soie, alors même que, précisément, elle s'attendait à manger des épices sur un avec évidemment un folklore complètement différent. Et donc, vous voyez, cette idée de géographie, je crois que c'est quelque chose de très important parce que dans ce tableau que vous voyez ici comme une nature morte, les historiens, je n'ose pas évidemment questionner sur tout ce que vous voyez là-dedans, mais moi, en tant que géographe, bien sûr que j'y vois le fromage. Je suis très sensible au fait qu'il y a du pain, du vin, que c'est quand même vaguement, même si c'est calviniste, il y a quand même une référence chrétienne, hein, même si le pain est pas loin de basculer, qu'on est sur quelque chose qui rappelle ces reliefs d'après-repas, hein, c'est très bien raconté par Pascal Quignard, c'est Nature morte, mais moi j'y vois aussi des éléments qui vont témoigner de la richesse de ces familles hollandaises du XVIIe siècle, parce que vous savez que le gros problème des riches, c'est de devoir dire qu'ils sont riches, sans trop le dire quand même. D'accord. Alors nous avons des systèmes, nous achetons des grosses voitures, nous mettons des crocodiles sur nos habits, nous mettons des marques sur nos lunettes. Mais au XVIIe siècle, quand vous êtes calviniste et riche, l'embarras des richesses, très bien décrit par Simon Chama, eh bien, ça nécessite donc un peu de subtilité. Et sur des tableaux qui célèbrent la nourriture, et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la nourriture pour un Hollandais, hein, eh bien, sur des tableaux qui célèbrent la nourriture, on va mettre des citrons. On va mettre des fruits de la Méditerranée qui montrent qu'on a accès à une autre campagne, à un autre marché, et que, à la différence de ceux qui seraient peut-être, d'après les historiens, condamnés à ne manger que du pain et du fromage, eh bien, on a accès à l'ailleurs. On a accès à quelque chose de très différent. Néanmoins, je voudrais, puisque j'ai écrit aussi une nouvelle édition de la géopolitique de l'alimentation qui est sortie la semaine dernière, je voudrais situer ce que je vais dire là et tout ce que nous faisons en géographie de l'alimentation, nous ne sommes pas très nombreux à travailler, une dizaine de personnes, dans un contexte géopolitique que je vais éclairer simplement par ce rappel de ce que Bruno Latour a fait sur la modernité. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'années, il écrit ce livre pour dire que tout ce dont nous avons parlé en termes de modernisation, hein, puisque vous avez appris que la semaine dernière il y avait un iPhone 5, je pense que vous avez bien compris tout l'enjeu qu'il y a à posséder ça par rapport à un iPhone 4, hein, et donc plein d'autres choses. Donc nous baignons dans cette idée que évidemment nous sommes dans un front de modernisation qui ne va pas s'arrêter, et puis en même temps tout change aujourd'hui, hein, nous découvrons que la planète est finie. Nous découvrons que ceux à qui nous vendions nos produits, eh bien, ils commencent à nous racheter, à nous vendre les leurs. Et puis surtout, nous découvrons un scandale, hein, qui est que jamais nous n'avons autant produit d'aliments et jamais il n'y a eu autant de gens qui ont été au bord de la mort. Et donc, je voudrais qu'on comprenne toute cette question de la géographie de l'alimentation dans cette époque où il n'y a jamais eu autant de paysans qu'aujourd'hui sur la planète. Et en même temps, où nous avons jamais vu autant de gens, hein, je ne parle pas en pourcentage, mais là, je parle en milliards de gens, hein, de gens qui ont été exposés à la non-alimentation. Alors, néanmoins, je voudrais, pour bien situer ça, hein, je voudrais le rappeler ce qui s'est passé ces 50 dernières années, qui permettra de répondre à la question que vous avez posée à Florent et à laquelle je répondrai tout à l'heure, qui est que nous arrivons aujourd'hui à un tournant. C'est pour ça que Bruno Latour, qui vient de publier un nouveau livre, justement dit « Maintenant, nous sommes capables de faire l'anthropologie des modernes. Hein, nous sommes capables de réfléchir à ce que nous avons fait depuis 50 ans, à savoir donc ce modèle alimentaire, hein, dans lequel nous sommes arrivés à des absurdités qui se sont produites en Bretagne il n'y a pas longtemps. Hein, la firme a un très joli nom qui s'appelle Doux, hein, qui produit quand même avec des subventions à hauteur de plus de 1 milliard d'euros de la viande pour le Moyen-Orient à partir de soja qui vient du Brésil. Et tout ça pour mettre des gens sur la paille. Donc un système qui déraille, complètement fou, hein, et dans lequel finalement on se rend compte qu'on a perdu quand même un peu les fondamentaux, hein, et c'est pour ça que donc la filmographie s'empare beaucoup de ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, hein, mais Jean-Paul Jo, il explique que finalement aujourd'hui nous arrivons à une époque où nous sommes en train de nous poser la question de savoir quel monde nous allons laisser à nos enfants. Nous sommes dans une période où nous remettons tout en cause, bien sûr, les politiques mentent. Hein, les industriels mentent, les pharmaciens mentent, les médecins mentent, évidemment, et nous mettons tout le monde en doute, hein, parce que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire, hein, où nous avons à essayer de réfléchir sur la pensée, cette fameuse pensée moderne, hein, née à la fin du XVIIIe siècle, qui organisait le progrès comme une longue flèche vers le bonheur de tout le monde. Pour faire comprendre un peu les choses et entrer dans cette thématique de l'alimentation, je vous propose de regarder ce poisson que vous connaissez peut-être, non ? Les poissons globes qu'on trouve dans les restaurants japonais, il y a très peu de restaurants de fugu hein, en France, mais il y en a au Japon. Et ce poisson a cette particularité qui est que lorsqu'on le coupe plus ou moins bien, mais surtout pas bien, eh bien, ceux qui le mangent meurent à table. Alors vous allez me dire, mais ça c'est des blagues. Ben, sachez quand même qu'il meurt entre 10 et 15 personnes chaque année au Japon du fugu. Et quand le ministère de l'Agriculture du Japon et de la Santé a décidé de mettre fin à cette curieuse histoire en disant que c'était, on allait fermer les restaurants de fugu, eh bien, il y a eu des associations hein, de gens qui se sont portés pour défendre le restaurant. Parce que si on ne peut risquer pas sa vie dans un restaurant de fugu, ça sert à rien de manger. Alors on va dire, non, là, nous sommes dans un cas tout à fait exceptionnel, des excès, des Japonais un peu cinglés. Mais non, vous allez voir que si je transforme le fugu en quelque chose que je vais trouver, par exemple, dans une rue à Caen, hein, ou dans une publicité, hein, vous voyez cette dame qui a, par exemple, décidé de maigrir, hein, et qui évidemment mange du fromage hein, et du chocolat pardon et se rend compte que elle devrait pas hein, il y a quelque chose vous voyez et puis cet industriel vous voyez d'ailleurs qui porte le joli nom d'Egbel en référence à une grande abbaye dans le cistercienne dans la vallée du Rhône hein, qui appelle son chocolat tentation ne nous soumet pas à la tentation. Et donc, dans lequel, si vous voulez, vous voyez, cette idée de peur, ce rapport très ambivalent à l'alimentation va commander beaucoup d'éléments, d'ailleurs de nos recherches. Hein, on va le voir dans un instant avec les paysages. Donc, pour que les choses soient claires, hein, je vais rappeler donc cette phrase d'Hippocrate hein, qui explique donc la particularité de l'alimentation, c'est que nous sommes ce que nous mangeons. Et si je dois vous l'expliquer, eh bien vous savez que lorsque vous avez besoin d'une barre de quelque chose pour vous remettre un peu en forme, hein, eh bien vous allez prendre éventuellement une barre de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, je crois. Hein, et vous allez prendre une barre de Lion. S'il y avait marqué feuille morte hein, ou cidre de Normandie, évidemment, ça ne donnerait rien à cette barre. D'ailleurs, on dit bien à quelqu'un hein, qui est un peu énervé, qu'est-ce que tu as ? Tu as mangé du Lion. Donc il se passe quelque chose, vous voyez, ce fameux transfert entre des valeurs et des produits alimentaires hein, qui passe par le marketing, bien sûr, mais qui passe aussi par toutes les représentations. Mais vous voyez, encore une nature morte pour montrer que au XVIIe siècle, évidemment, il y avait différentes manières de manger, que ceux qui consommaient de la volaille et des oiseaux hein, étaient évidemment les gens des classes supérieures, hein, et ceux qui consommaient des produits des animaux qui rampaient au sol étaient évidemment des gens des classes inférieures. Et donc il y a une classification comme ça, et nos aliments sont organisés autour de cette propriété intrinsèque de l'alimentation qui est que nous sommes ce que nous mangeons. Alors ce processus en quelque sorte a été expliqué par des anthropologues il y a un siècle à peu près, un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, et en particulier, je vais prendre simplement Fraser, hein, par cette pensée magique. Alors la pensée magique, c'est pour l'appliquer à l'alimentation, hein, c'est une idée selon laquelle on accorde des propriétés à quelque chose en fonction du contact qu'on a. Voyez, par exemple, donc dans la loi de contagion, voyez, manger des huîtres sur le port de Quimper, c'est évidemment être près de la vie et évidemment communier à tout cet écosystème hein, qui fait que évidemment à Quimper sur le port un dimanche matin à 11h avec un pêcheur, un vrai pêcheur hein, qui a des mains de pêcheur et une tête de pêcheur, eh bien on ne peut qu'aimer les huîtres et qu'elles sont bien meilleures que sur le marché de je ne sais quelle ville du fin fond de la France hein, ou chez Carrefour hein, évidemment du cidre qui est consommé dans un verre en plastique d'une boîte de nuit, hein, n'a rien à voir avec celui-ci, vous voyez, avec le sourire, dans le tonneau et tout ce que vous voulez, évidemment en Normandie. Donc c'est très important d'imaginer que une part de l'alimentation donc a pour fonction de transférer des valeurs que nous accordons aux produits grâce à la contagion. Je pense à cette tasse de thé, vous voyez, si je ne vous avais montré que ce récipient, éventuellement vous m'auriez dit c'est de l'eau sale, c'est de la vaisselle, c'est de l'eau de vaisselle. Mais à côté du Fujiyama, qui est la montagne sacrée du Japon, et ornée par les feuilles qui sont légèrement dessinées par le marketing, on a quelque chose, évidemment, qui donne de la puissance à cet élément. Donc la loi de contagion. La loi de similitude. Vous savez très bien que donc pour avoir des forces, il faut manger des éléments, des choses qui évoquent la force. Si je partage, on l'a fait aux États-Unis, si je partage la moitié de la salle en disant vous mangez du lièvre et vous de la tortue, et qu'ensuite je vous demande qui est plus rapide, c'est forcément ceux qui ont mangé du lièvre. D'accord? Donc nous accordons de manière implicite des valeurs à l'alimentation en fonction de cette curieuse loi qui est donc d'attraper en quelque sorte les symboles, les valeurs symboliques que nous accordons aux produits. La similitude, c'est plus compliqué. La contagion, c'est serrer la main à quelqu'un, vous voyez, à quelqu'un de célèbre. Par exemple, si je vous dis, j'ai serré la main à Hollande ce matin, éventuellement, vous allez regarder ma main. Ou peut-être moi, pour garder le souvenir, je ne vais pas me laver les mains le plus longtemps possible pour garder quelque chose. Vous voyez? Mais si je bois ce café, mais que vous me dites qu'il y avait ce matin un cafard, mais que vous avez bien sûr nettoyé, tout d'un coup, le contact symbolique du cafard va faire que, évidemment, le café n'a pas le même goût. Donc c'est très important de bien comprendre que l'alimentation c'est quelque chose qui permet de transférer des valeurs du monde à soi-même parce que vous allez voir donc il se passe quelque chose de très important. Je vous donne un autre exemple de la loi de similitude. Vous voyez ce gamin au Vietnam qui me tend des rats. Il dit bien sûr il faut manger du rat parce que le rat rend viril et intelligent. Alors pourquoi je lui demande au gamin pourquoi ça rend viril et intelligent? Parce qu'il m'a dit, il me dit depuis que l'humanité existe, il y a toujours des rats, donc ils doivent se reproduire, vous voyez, et ils sont intelligents parce qu'on essaie de s'en débarrasser et ils sont toujours là. Voilà, donc manger du rat. J'ai donné à mes étudiants cette fourmi qui s'appelle Omega culona qu'on peut acheter sur Internet maintenant, qui a cette particularité de se reproduire au printemps dans la forêt équatoriale et qui au moment, un peu avant la reproduction, voit ses fesses grossir. C'est pour ça qu'elle s'appelle Omega culona, comme le cul. Voyez? Ces fourmis, on les ramasse, on les grille et on les mange et c'est délicieux. Quand j'ai passé la corbeille d'Omega culona à mes agrégatifs, bon, même en mangeant devant eux, en disant c'est très bon, etc., ils ont eu du mal. Mais quand je leur ai dit que s'ils en mangeaient, ils auraient l'agrégation, ben ils ont mangé toute la corbeille. Et ils m'ont demandé l'adresse Internet pour en acheter. Voyez, et ils ont eu l'agrégation. Donc c'est très important que vous voyez les anthropologues nous aident à comprendre les transferts de la nature vers nous passent par un certain nombre de prismes, mais en particulier, là j'ai pris le cas du paysage, et le paysage alpin, qui ne permet pas de deviner que lorsque une goutte d'eau tombe sur ces massifs, eh bien il faut 400 ans avant qu'elle arrive ici. D'accord, mais quand même, l'association des images, la pureté, le caractère inaccessible, etc., etc., fait que on va utiliser ça. Et puis comme on considère que les consommateurs, je dis bien les consommateurs, pas les mangeurs, les consommateurs, vous savez, c'est ceux qui vont en pilotage automatique dans les supermarchés derrière des espèces de déambulateurs, vous voyez, avec un sac devant, et puis qui mettent des choses dedans. Vous voyez? Eh bien, pour être sûr qu'ils n'oublient pas qu'il y a la montagne, on a gravé sur la bouteille. D'accord. Donc c'est très important de voir que la géographie tout d'un coup va être instrumentalisée pour pouvoir donc faire passer ce message. Alors l'autre point, c'est que l'être humain lorsqu'il mange, c'est un être qui est ambivalent. Les Américains appellent ça double mind, c'est-à-dire donc que nous sommes des gens à la fois qui craignons de manger ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes néophobes. Comme ce gamin, voyez, qui dit à sa mère, j'aime pas, et la mère, elle a mis tout son amour pour faire ce truc, et elle dit, sale gosse, tu vas manger, etc. Alors qu'il suffirait qu'elle se mette devant lui et qu'elle lui dise, regarde comme c'est bon, qu'elle ouvre les yeux, vu qu'elle dise même hein, une cuillère pour la grand-mère, une cuillère pour le grand-père, une cuillère pour, voilà, pour la poupée et tout ça, et ça marche, hein, vous savez très bien ça. Parce que l'enfant, il a besoin de représentation pour ingérer dans son corps quelque chose qui peut le menacer. Instinctivement, nous avons tous cette prudence-là. Si je vous dis que j'ai ramassé des champignons, ben, je suis très bon en champignons, mais que j'ai ramassé des champignons que je ne connais pas et que je voudrais goûter avec vous ce soir. Hein? Regardez les lâches que vous allez être. Hein? Vous allez tous trouver des excuses. Parce que vous avez quelque part, vous voyez, ce principe qui va vous protéger. Si nous n'étions pas néophobes, nous n'existerions pas. Et en même temps, c'est tellement rasoir de manger toujours la même chose. Et je pense que c'est vraiment une idée fausse de penser que les paysans mangeaient toujours la même chose. Ça, je suis absolument persuadé qu'avec le même plat, hein, les mêmes choux, les mêmes choses comme ça, les paysannes étaient beaucoup plus malines et savaient faire décliner le chou en 50 plats. Ça, il faut vraiment vous enlever ça de la tête parce que, ou alors aller vraiment aussi bien dans la forêt équatoriale ou peut-être même dans un village de la Normandie, hein, peut-être dans une ferme un peu reculée de la Normandie, vous avez vos Indiens aussi, vous. Hein, et vous vivez avec eux, voilà, en voyant comment ils font pour manger leurs pommes. Hein, moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à faire pour manger toutes vos pommes. Je ne comprends pas. Et tous vos stocks de crème. Hein, j'ai découvert à Paris que lorsqu'on est normand, n'est-ce pas, on a de la crème dans le frigo. Voyez, et on en met partout. Hein? Et moi, ça me rend malade. Rien de voir ça, je trouve ça, mais vraiment anti-diététique, tout ce qu'on veut. Je comprends pas. Voilà. Hein, d'accord. Donc c'est très important de savoir que nous sommes néophobes et en même temps nous sommes néophiles. Nous avons besoin de la nouveauté. Mais la nouveauté, elle doit être culturalisée. Si je vous emmène dans un restaurant afghan, je crois qu'il y a un restaurant afghan à Caen. Ah, voilà. Eh bien, si je vous emmène dans ce restaurant afghan et que je vous laisse vous débrouiller avec la carte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ben, prends pour moi. Ou, attends, je regarde, là, ça a l'air pas mal. Oh, non, là, c'est vraiment pas bon. Hein, on regarde un peu, parce qu'on est paumé. Parce qu'on a peur. Vous voyez? Hein, donc, c'est très important de savoir que l'être humain, avant d'ingérer dans son corps quelque chose qui peut le détruire, hein, eh bien, il a un comportement qui est un comportement de sauvegarde. Et c'est ce qui explique que il n'y a pas besoin d'être scientifique, marketeur, tout ce que vous voulez, pour faire peur aux mangeurs. Hein. Nous sommes actuellement dans une période où on fait peur aux mangeurs. Hein. Plus on les rassure, plus on met des labels, plus en même temps on leur fait peur. Et plus les gens marchent. Et on dit comment il faut faire pour ne pas avoir peur. Eh bien, je dis non, c'est très important d'avoir peur. C'est très important d'avoir peur parce que ça vous oblige à faire des choix et pas à manger n'importe quoi. D'accord? Je suis en train, par exemple, d'étudier le comportement des comparés américains et chinois. Hein, comment mange un américain, comment mange un chinois? Eh bien, un américain, quand il mange avec les doigts, il ne regarde pas ce qu'il mange parce qu'il regarde autre chose, évidemment. Il regarde la télé, il regarde je sais pas quoi, voilà. Vous voyez? Donc, il mange avec les doigts, il mange. Un Chinois, quand il mange avec des baguettes, il est obligé de regarder ce qu'il y a au bout de la baguette, sinon il n'attrape rien. Donc il ne mange pas la même chose. Il n'a pas le même rapport à l'aliment. Vous voyez? Les Allemands ont un mot hein, qui est fressen, pour manger avec les doigts. Hein, voilà, ouais, les animaux aussi. Hein, et puis essen, pour manger. Hein, si fressen, ça a donné food chez nous. C'est pour ça que le food fast, hein, ou fast food, c'est pas bon. Alors qu'en fait, ça pourrait être bon. Mais simplement, vous voyez que c'est consommé de manière différente. Nous avons maintenant tout un discours hein, sur le, c'est pas, j'invente rien, tout un discours qui est l'alimentation est mauvaise. Hein, vous allez mourir de manger, d'accord hein, et vous allez, regardez, vous voyez, déformer hein, ces belles silhouettes, ces canons grecs hein, repris à la Renaissance. Vous voyez, et qui ont fait qu'aujourd'hui, nous changeons de corps. Hein. Donc, ce discours sur l'alimentation nocive, il est très prégnant, Hein, et il participe de cette même suspicion générale hein, que nous avons, parce que justement, dit Latour, nous ne sommes pas des modernes. Hein, que nous croyons avoir inventé ce qu'il faut pour avancer, et en fait, nous avons peur. Et donc, soyons rassurés hein, et de penser qu'il est normal, hein, quelque part, que nous ayons peur, mais simplement qu'il faut la culturaliser. Alors, pour répondre à ces peurs, je vais aller très simplement, parce que c'est la première fois que vous, pour certains d'entre vous qui entendez parler beaucoup d'alimentation en sciences sociales, parce que je travaille avec des anthropologues, des sociologues, en géographie, vous savez, c'était le désert total sur l'alimentation. Monsieur Pitt avait écrit un truc sur la gastronomie française, et puis il y avait eu deux, trois personnages de Castro qui avaient écrit quelque chose après la guerre sur la faim dans le monde, vous voyez. Alors, vous avez deux réponses. Première réponse, le mythe américain. Le mythe américain, c'est de penser que nous avons trouvé, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, grâce à la nutrition scientifique, nous avons trouvé la clé, hein, en inventant, en découvrant, disons, avec le grand chimiste qui a été Laplace, et puis ensuite Magendie qui a formulé tout ça vers 1845, les glucides, les lipides et les protides. Et puis les vitamines, au début du XXe siècle, avec ça, nous avons en gros de quoi bricoler un discours qui consiste à dire, eh bien, quand je mange ça, c'est pour ça, quand je mange ça, c'est pour ça. Hein, et il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger... Vous savez très bien comment ça marche. Et donc ce discours scientifique, n'est-ce pas, il est sur tous les produits. Hein, j'espère que vous avez bien regardé sur la bouteille, évidemment, le nombre d'ions positifs, négatifs, du phosphore, du magnésium, ce qu'il y avait avant de vous empoisonner à l'eau de Vittel. Et puis vous avez un système qui est fait donc par les Américains à partir d'une pyramide. C'est très beau, très bel objet scientifique, vous voyez, dans lequel on a essayé de mettre évidemment par catégorie ce qu'il faut manger beaucoup, parce que là il y a les compagnies des eaux, hein, évidemment. Qui vendent des choses, les céréaliers de l'Utah qui sont là, hein, et puis ensuite les maraîchers de Californie, les fromagers de l'Est, hein, et puis ensuite, ça c'est une nourriture interdite, mais vous savez très bien que les Américains font exactement l'inverse. Hein, ils mangent beaucoup de ça et de moins en moins de ça. Mais ça c'est l'idéal, c'est le mythe. D'accord ? Il faut laisser aux mangeurs le libre choix. Le mythe européen, lui, c'est le mythe géographique. Nous partons donc d'aliments qui ne sont pas identifiés par la nutrition scientifique, encore que maintenant on oblige parfois à mettre des allégations scientifiques, mais on va mettre plutôt l'origine. Parce que l'origine, c'est quelque chose qui raconte une histoire à laquelle nous voulons croire, justement, pour pouvoir intégrer ça. Je ne pense pas que le jour où j'ai découvert le camembert, hein, dans mon Jura natal, où on ne mangeait que du comté, hein, quelqu'un a dû me dire « camembert, c'est la Normandie ». J'ai dit « c'est quoi la Normandie ?»« Ah, c'est une région où ils vivent bien, il y a des vaches sur les pommiers, ils boivent du calva, donc tu dois y aller ». Vous voyez, on m'a expliqué que c'était quelqu'un ma mère. Mais comme je savais qu'en Normandie, il n'y avait pas un trou démographique particulier, donc je pouvais manger du camembert. Et vous voyez que chaque produit porte un nom géographique. Ça peut être l'Écosse, ça peut être ici le nom d'une ville en Italie, alors que le jambon, évidemment le cochon, il n'a pas couru dans les rues de Parme. On reparlera de ça tout à l'heure, si vous voulez. Le Vasa hollandais, suédois, etc. Bon, vous avez compris que l'origine, c'est quelque chose d'important. Alors, pour comprendre l'origine, pourquoi nous mettons tant d'importance à décliner notre origine, j'ai fait une enquête avec mes étudiants pour savoir ce que se disent les gens dans les soirées mondaines à Paris. Vous savez, première chose dont ils parlent, ben, ils relèvent l'accent. Il vient d'où, lui? Il a un accent bizarre, hein. Donc, on essaie de voir d'où sont les gens. Et puis, alors, les gens vous disent, ah, ben, je suis la rive gauche, la rive droite, 16e, machin. Chacun raconte son petit truc. Et puis après, éventuellement, hein, le prix du mètre carré. Paris, c'est la grande hantise, hein, le prix du mètre carré. Parce que, évidemment, si vous dites que vous êtes dans un quartier où le prix du mètre carré est à 25 000 euros, bon, forcément, il n'y a pas besoin de montrer le tableau hollandais. Hein, vous avez compris tout de suite. L'origine, c'est très important parce que c'est un mot qui vient du latin orior, qui a été utilisé au Moyen-Âge pour désigner une femme qui se lève d'un lit après avoir accouché. Comme le soleil se lève à l'Orient. D'accord. Donc l'origine, si vous voulez, c'est le moment où, votre mère, évidemment, s'est levée, hein, a souffert à cet endroit-là. Alors bien sûr, il y a eu d'autres. Si vous êtes né dans la maternité du camp, il y a eu d'autres personnes, mais le jour à cet instant T, il n'y a que vous. Donc c'est pour ça que lorsque les gens se sont mis à circuler vers le 18e siècle en Europe, hein, on a commencé à mettre des papiers d'identité et on a commencé à mettre le nom, évidemment, le prénom, et on a mis quelque chose qui reste toujours, hein, qui est le lieu et la date de naissance. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui chez nous est très constitutif, hein, à la différence des États-Unis, où au contraire, justement, on est des nomades, etc. On aime voyager, on aime changer. Enfin, on est des pauvres qui avons quitté l'Europe et on ne sait pas où on est un peu paumé, et donc on se balade par là. Alors qu'en Europe, évidemment, on est attaché à sa région, hein, qui est qualifiée et qui est qualifiée par des produits alimentaires. Parce que quand vous avez mangé, vous êtes normand et que vous avez mangé de la crème. Eh bien, même si vous épousez une Provençale, hein, vous imaginez la bagarre qui est entre l'huile d'olive et la crème dans les frigos en Provence. Hein, c'est évidemment très important. J'ai une dame un jour qui m'a dit, monsieur, je suis basque. Elle avait, nous venons fêter les noces d'or avec mon mari qui est alsacien. J'ai dit, aïe, nous nous battons depuis 50 ans sur l'heure du repas. Voilà, et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Que vous m'expliquiez. Eh bien, j'ai dit, mais pauvre, jusqu'au bout, vous vous battrez. Courage. Il n'y a rien à faire. C'est la culture. Vous voyez, la culture liée à cette question de l'origine. Alors, cette question de l'origine, en fait, elle est intervenue chez les géographes assez tard, mais lorsqu'on s'est rendu compte que, en Europe en particulier, hein, les produits alimentaires circulaient beaucoup trop sur la planète. À un moment donné, on a dit, c'est trop. Vous voyez, par exemple, dans ce panier de Noël d'une famille lyonnaise, hein, voilà d'où viennent les produits. Hein, quand on calcule ce qui, par des moyennes, etc., digne de l'époque où j'ai fait ma thèse en 1983 avec un sujet incompréhensible, parce que j'étais en géographie théorique et quantitative. Vous avez connu ça, Monsieur Brunet. Mais c'était quand même un sujet sur les paysages. Avec M. Vibert, bon, pour passer de Vibert à Pitt, hein, il a fallu passer de Besançon à Paris. Hein? Et donc là, vous voyez, à partir de ce moment-là, lorsqu'on commence à comprendre que sur une table à Vancouver, chaque produit alimentaire a parcouru en moyenne 4500 kilomètres, bon, on se pose une question, on se dit, le monde, voilà, et si les Chinois font ça, hein, on va pas y arriver, enfin bref. Donc, vous voyez qu'on va reconfigurer ce rapport à la distance, hein, par justement cette pensée que nous avons aujourd'hui intégrée, hein, d'après Bruno Latour, puisque nous ne sommes pas des modernes, qu'est-ce que nous sommes? Ben, nous sommes des gens qui sont en train de refabriquer quelque chose. Il appelle ça l'écologisation. C'est pas la robe à fleurs de Madame Duflo, hein, c'est pas ça. C'est pas le grand cirque. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Hein, dans lequel nous essayons de reconstruire un rapport complètement différent à ce qu'on mange, parce que ce que nous mangeons va être situé différemment dans l'espace. Alors, la fonction identitaire de l'alimentation, donc vous voyez ici que si je prends l'Europe, hein, vous avez un système de marquage qui est à gauche celui des patronymes, hein, la famille Twining, la famille Heineken, qui produit quelque chose, qu'il vend d'ailleurs souvent des boissons, et qui met son nom, qui en fait une marque. Et puis le système latin, hein, où on se met pas en avant. Chez les catholiques, on se met pas en avant. On se cache derrière la communauté. D'accord? On ne va pas mettre moi, camembert, je sais pas quoi, vous imaginez. On se met derrière le village. Hein, et on met initiation géographique d'origine. Hein, c'est jambon de Parme et de Reggiano. Reggio di, je sais plus comment ça s'appelle. Les marques alimentaires sont issues de cultures commerciales. Vous allez me dire, mais quand même, regardez ce fromage de Gouda, c'est quand même bien un fromage de Gouda de Hollande. Mais moi, je suis très sensible à sa forme. C'est la forme d'une roue. Hein, c'est un truc qui va rouler comme un tonneau, qui est fait pour être vendu avec du folklore. Vous voyez, on a mis les tulipes, les sabots, tout ce qu'on veut. Hein, on vend de la Hollande. Et comme le fromage n'a pas beaucoup de goût, d'ailleurs, on met du cumin dedans, parfois. hein, parce que c'est un fromage qui est un ingrédient et qui sert justement à cette cuisine que les gens de l'Europe du Nord hein, tentent de développer vers l'Europe du Sud. Bon, regardez Nestlé, c'est très joli. Hein, ici, on a mis les oiseaux, hein, on n'a pas mis les serpents ou les criquets. Hein, il y a des symboles qui sont très forts. Hein, et le caviar, c'est une marque qui est pourtant destinée aux Américains. Hein, on a mis ça comme quelque chose de comme un bijou, vous voyez, avec la référence à l'esturgeon, parce qu'on ne sait jamais. Hein, et puis on a mis Tsar Nicolas, parce que les Américains sont censés confondre star et tsar. Hein, c'est ce qu'on m'a dit. Chez les sociétés paysannes, regardez comment on fait. Hein, la fleur de sel de cette région hyper polluée qu'est la Camargue. Hein, eh bien, elle est, regardez, avec des dessins, avec du liège, et puis la fleur de sel. C'est la fleur de sel, hein, d'accord. C'est quand même quelque chose, vous voyez. On va construire un rapport au territoire en fabriquant, hein, vous voyez, à partir d'une tradition qu'on va bidouiller, si on peut dire, hein, recréer des mythes. Je vous ai mis ici le bœuf de Kobe. Qui vous impressionne pas, vous Normands, hein, mais qui est impressionnant parce que c'est un des rares pays au monde hein, où on bichonne la viande comme en France. Hein, et d'ailleurs, ce bœuf, il n'est pas, c'est le bœuf de Kobe, hein, et c'est donc une indication géographique parce que le Japon hein, est comme la France, un des rares pays au monde qui soit un pays de paysans. Attaché à sa terre. Hein, je rappelle que nous sommes paysans, même si nous sommes en ville, même si Jean Viard nous calcule des trucs absolument incroyables, hein, nous sommes des paysans parce que nous avons le record mondial des résidences secondaires par habitant. Expliquez-moi hein, quel est l'intérêt qu'il y a à avoir payé, après avoir beaucoup travaillé pour sa retraite, une résidence secondaire dont on ferme les volets 11 mois et demi sur 12. Expliquez-moi ça. Hein. Voilà l'attachement à l'attachement à terre. Alors vous allez me dire, oui, mais voilà, vous avez des marques qui deviennent, des objets géographiques qui deviennent des marques. Bien sûr, le Champagne, c'est à la fois une région et en même temps une marque. Hein, le Comté, c'est la même chose. Hein, parce que vous êtes là dans des sociétés, dans la géographie de la France, hein, vous êtes dans des sociétés qui sont à la fois des sociétés paysannes, mais également dans lesquelles il y a des bourgeoisies marchandes, comme à Parme. Voyez, et lorsque ces bourgeoisies marchandes s'emparent des produits locaux, eh bien, ils en font des marques. Hein, c'est ce qu'on a pour Bordeaux, c'est ce qu'on a pour beaucoup de vignobles en France hein, que nous avons réussi à vendre comme des marques géographiques. J'aime bien ce type qui un jour s'est vanté devant moi, Reflet de France, là, vous voyez, chez Carrefour, qui m'a dit « Je suis celui qui vend le plus de produits de terroir en France hein, », parce que, vous voyez, il a créé une marque. Hein, et derrière laquelle il a mis des gens pour vendre du foie gras entier du sud-ouest. Hein, d'accord? C'est très important, cet attachement. Hein, si je vous mets Ténoir et que je remplace Ceylan par Fukushima, vous comprenez que bon, ça va pas faire la même chose. Hein, donc c'est très important de comprendre que la géographie, elle commence hein, je dirais, à imprégner les produits alimentaires hein, et va nous aider à comprendre justement comment nous sommes en train de reconstruire notre alimentation. J'aime bien montrer ça parce que on a simplement sur ces étiquettes de vin hein, des messages qui sont très forts. Regardez en haut à gauche, hein, la Bourgogne, vous voyez, elle est mise en avant par le village. Le Bordeaux par le château, hein, avec le dracard qui est censé emporter évidemment le vin au loin. Le Champagne, hein, regardez, par le nom de famille. Hein, moi, Tétinger, président du Champagne. Hein, voilà, c'est ça. L'Alsace, elle se met en avant par l'Alsace, et puis par cette espèce de, je dirais, de décorum d'empire, hein, à l'époque où on était dans le Saint-Empire germanique, hein, et où on revit au Moyen-Âge, et on met derrière le cépage. Mais il y a quasiment pas de nom. Il n'y a pas de village, on est derrière le collectif. Ici, c'est le château, hein, et là-bas, c'est le village, là, c'est la belle famille, et puis le pauvre Languedoc, vous voyez, qui va chercher un baron de Rothschild pour vendre du chardonnay, hein, et en trichant un peu, parce que vin des pays DOC et AOC, ça peut quand même se confondre quand on achète rapidement son vin. voyez, vous avez ça là, simplement cinq cultures différentes et cinq rapports au territoire qui sont évidemment très différents. Vous avez parlé du café, hein, mais la différence qu'il y a entre ce café-là que vous m'avez montré, hein, c'est que c'est un café qui vient du café turc, parce que celui-là, il est né à Venise. Hein, qui a donné ce café, ce cappuccino, que vous, cet espresso que nous avons. Hein. Et quand le café est exploité à Vienne, ben qu'est-ce qu'on fait comme chez vous? On met de la crème dessus. Vous voyez? Et puis quand on fait du café dans des régions où il n'y a pas de de vignes, hein, où les femmes sont les premières à vouloir être émancipées parce qu'on est dans des sociétés protestantes et qu'une femme protestante c'est pas la même chose qu'une femme catholique. Eh bien, on va mettre une boisson complètement différente, vous voyez, un grand truc. On pourrait comme ça, à l'infini, hein, regarder chaque produit alimentaire pour découvrir finalement le ressort culturel qu'il y a. Donc je voudrais terminer, parce que reste quelques minutes, sur justement ce rapport avec la géographie et puis le rural, parce que vous allez me dire quand même c'est très gentil tout ça, mais c'est pas bien rural. Alors, instrumentalisation de la naturalité. Parce que la nature est évidemment notre mythe d'aujourd'hui. Par exemple, la nature, c'est le climat. Vous voyez, j'ai découvert au Québec les pommiers qui avaient été laissés par mégarde à Noël, hein, par grand froid, eh bien, ont été récoltés au mois de janvier, hein, après moins 25, et ont donné des pommes qui ont été transformées en cidre de glace, que les Chinois copient aujourd'hui en mettant des golden au congélateur. Les barbares, vous voyez. Deuxièmement, c'est le paysage. Regardez comment on instrumentalise le paysage, le Festival de Saint-Dié. On va faire un numéro spécial de Libération, vendredi 12 octobre, et on m'a commandé un article sur le paysage alimentaire. Enfin, c'est un peu moi qui ai vendu, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que le paysage alimentaire? C'est ça. D'accord? C'est-à-dire, justement, ce que vous avez dit, hein, c'est-à-dire cette idée que le paysage, là, c'est pas les gens de la ville qui l'ont fait. Il faut bien savoir ça. Moi, quand mon père me disait, tu vois, mon gamin, regarde notre plaine de blé là, à 700 mètres dans le Jura, regarde comme c'est beau. Tu ne trouveras même pas ça au Louvre. Et donc, il avait bien conscience que dans son champ, il travaillait sur quelque chose qui était de l'esthétique. Hein, ce ne sont pas des crétins qui ont fait ça. Et ce ne sont pas des dessinateurs à Tokyo. D'accord? Le paysage. La rizière. Même chose. Mais on va même plus loin, parce que moi, j'ai vu des Chinois cet été, avec qui j'ai travaillé, pour se dire, mais en fait, comment vous avez fait ça? Et j'étais obligé de relire Gourou, hein, Pierre Gourou, qui explique qu'en fait, les Chinois, ils ne voient pas la pente. Nous, on nous a appris, M. Brunet, hein, la pente, c'est horrible. Heureusement, en Normandie, vous n'en avez pas. C'est pour ça que c'est prospère. Mais nous, dans le Jura, vous vous rendez compte? On est des pauvres ploucs, hein, on est obligé d'avoir des vaches. Mais un Chinois, il n'a pas la pente. Il voit pas la pente. Lui, il voit l'horizontalité de la vallée. Et quand il veut de l'horizontale, eh bien, il en fabrique. Et puis, on lui dit, mais moi, je lui dis, mais attendez, mais c'est sur une pente. Il me dit, sur quoi? Mais le mot n'existe même pas en chinois. Vous voyez? Donc, il fait quelque chose, mais dans un autre univers mental. Et je lui dis, est-ce que c'est beau, votre pays? C'est magnifique. Regardez, il y a même des touristes qui viennent. Vous voyez? Il m'a dit, voyez là, il y a des Américains qui sont en train de prendre des photos, ils viennent prendre des photos, mais moi jamais, on me payerait un voyage pour aller aux États-Unis, je n'irai jamais prendre des photos là-bas. Donc ils ont conscience, vous voyez ce que je veux dire, de ça. Le paysage, c'est évidemment, donc l'instrumentalisation, je vais passer assez rapidement, hein, de toute cette beauté, des reliefs, de l'architecture, de la nature. Le paysage, c'est l'open field américain, regardez ça. Hein, comment ces townships américains, hein, sont des systèmes miniers, hein, on apprenait ça comme ça, des systèmes miniers dans lesquels les agriculteurs isolés, hein, n'étaient que des fournisseurs d'une filière agroalimentaire qui était située à Chicago ou à Minneapolis. Mais là, il n'y a pas de rapport au territoire. C'est peut-être d'ailleurs un de leurs problèmes, justement. Comment manger quand on n'a pas de rapport au territoire? Hein. Le paysage, c'est évidemment l'instrumentalisation par les politiques, hein, du mot « sud ». Regardez, avec tous les clichés, évidemment, que l'on veut montrer aux touristes. Vous, hein, voyez, évidemment, la vigne, les châtaignes, etc., le vin, le verre. Hein, donc, il y a quelque chose qui est de montrer tout ça. Le paysage, enfin, la nature, enfin, c'est l'éthique morale. N'oublions pas que la nature, elle nous intéresse parce qu'elle est morale. Hein. Évidemment, ça a commencé par le chocolat, hein, ou le café. Vous voyez, ce mec, il vous sourit parce que vous avez acheté du café. Hein. Et vous allez le sauver de je sais pas quoi. Hein. C'est la même chose pour le chocolat. Vous voyez, quand vous mangez votre tablette de chocolat, on a fait des enquêtes avec des étudiants. Qu'est-ce que ça vous fait de manger du chocolat? Ça me fait plaisir. J'aimerais bien l'avoir aussi avec moi, les 10 étudiants. Mais au moins, c'est quand même mieux que tentation. Tentation, c'est pour les gens malades. Là, je sauve quelqu'un. Je sauve la planète. Et ça marche. Hein, le soin du corps. Regardez les eaux de vie des moines, les moines et les dieux. Hein, il y en a partout maintenant. Regardez les gâteaux. J'ai trouvé ça, des gâteaux amaretti, morbidi. Hein, des amandes pour les malades, les gens malades. Hein, quand vous êtes malade, il faut manger des amandes italiennes. La bière. Regardez comment les Belges boivent la bière. Hein, c'est quand même une multinationale qui fait ça. Qui recrée le vitrail et qui invente un calice monastique, hein, dans lequel Luther aurait bien trempé, évidemment, ses lèvres. Lui qui rêvait, hein, de faire de l'Allemagne, un endroit où on allait partager la bière pendant la scène. Hein. Voilà. Manger moral, ben, c'est chez vous, ça. Hein, je travaille un petit peu de temps en temps. Vous voyez, il faut manger normand, hein, locavore, c'est ça. C'est la réappropriation de la distance. Hein, et si vous mangez normandivore, hein, eh bien, moralement, vous êtes quand même plus acceptable, hein, que de manger des citrons qui viennent d'Argentine. Voilà donc vous voyez, le fond, et c'est pour ça que je vais terminer par cette nature morte, non pas seulement pour rappeler cet idéal, hein, de célébration qu'avaient les Hollandais et de frugalité, mais parce qu'il y a, Claudel a très bien écrit dans un beau texte, hein, il y a ce citron, mais ce citron avec que Claudel voit comme un point d'interrogation. C'est pas beau, ça. Alors, je voudrais que ce que nous avons fait maintenant, là, soit évidemment le point d'interrogation de toutes ces séances que vous allez faire durant cette année. Et en espérant que vous vous rappellerez qu'au fond, manger, c'est d'abord construire un rapport avec le monde. Voilà, merci.